Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Vous l'aurez remarqué, nous sommes orphelins de Catherine Ney qu'on embrasse aujourd'hui. Mais Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou sont là. C'est l'heure de nos carnets de campagne. Fait marquant cette semaine, une campagne très chiracienne de Valérie Pécresse en Corse. Et aujourd'hui, place au meeting, notamment pour Éric Zemmour à Lille et Marine Le Pen à Reims. Le constat quand même, c'est qu'à droite, tout se joue dans un mouchoir de poche, Michel Cotta.
Dans un mouchoir de poche et surtout dans un débat entre les deux droites extrêmes.
Oui.
Et au fond, on s'aperçoit que ce débat-là aplanit un peu tout le reste. Alors on parlera de
dans quel sens
on parlera de du PQS. On ne parle pas d'autre chose. En réalité, on s'aperçoit que dans les journaux, le meeting d'aujourd'hui, l'un à Lille, c'est l'un avec 6000 personnes, l'autre avec 3000 personnes. Enfin, on ne parle que de ça depuis hier. On ne parle que de ça depuis hier. Bon, il y a peut-être d'autres choses à parler de cette bagarre entre Le Pen et Éric Zemmour.
Vous regrettez qu'on en parle trop ?
Oui, je regrette qu'on en parle trop, mais enfin, je comprends très bien. J'y participe aussi, vous remarquez. J'y participe aussi. Mais je trouve, alors, si on reste justement sur cette bagarre, moi, ce qui m'a, cette semaine, interpellée, c'est la grande interview de Marine Le Pen au Figaro.
Oui.
Parce qu'on s'aperçoit qu'au fond, plus l'un se radicalise, les mots, plus l'autre essaye de se normaliser. Et pour le moment, en tout cas, la stratégie de la normalisation reste, je ne dis pas que ça reste jusqu'au bout, jusqu'à l'élection, mais pour le moment, la stratégie de normalisation de Marine Le Pen reste efficace sur les couches populaires, sur les plus petits salaires. Et il y a, en plus, on voit à cette occasion un virage de Marine Le Pen absolument extraordinaire, et notamment sur la famille monoparentale, c'est-à-dire qu'elle accepte la famille monoparentale, donc elle sort de ce kyste comme ça, catholique contre très catholique,
ce carcan.
Voilà, ce carcan, ce qui est vraiment intéressant, c'est la première fois qu'elle le fait. Elle le fait avec une grande
humanité,
humanité, mais surtout, je trouve qu'une grande constance. Elle est quand même inébranlable, cette femme. On se dit qu'après tout ce qu'elle a pris depuis 15 jours, 3 semaines,
elle a une forme de résilience.
Elle a une
c'est
forme
le mot qui,
vraiment de,
c'est le mot qui revient.
De résistance. Je dirais plus de résistance, que de résilience.
Et résilience. Gérard Carrérou.
Oui, la bataille entre les deux est intéressante parce que c'est la bataille pour l'électorat, effectivement. L'électorat de l'extrême droite ou de la droite assumée, peu importe le nom qu'on lui donne. Et il y a à peu près 30% des voix qui sont dans cette corbeille-là.
18 pour Marine Le Pen, selon un sondage que j'ai sous les yeux, et 14 pour Éric Zemmour.
Oui, non, voilà. Ça fait, en gros, selon tous les sondages, les additions, ça fait autour de 30%.
C'est ça.
C'est 17 plus 13 ou 18
voilà.
plus 12. Bon, 30%, c'est énorme, hein, entre nous, puisque c'est même supérieur à ce qui est donné à Macron dans tous les sondages, où il est autour de 25%. Donc, si vous voulez, cette conquête... Au point de départ de ces deux droites, appelons ça les deux droites, il y a une droite qui est une droite lepéniste qui est plus populaire, ça on le sait depuis le début, mieux implantée dans le nord de la France que dans le sud, etc.
Oui. Sachant que vous avez
plus
pas mal
populaire.
D'anciens électeurs de gauche socialiste
voilà,
qui maintenant votent pour Marine Le Pen.
Droite populaire, elle a su leur parler au fil des années et elle a ancré une partie de cet électorat-là. Et puis Zemmour, lui, il a pris la droite plus traditionnelle, mais plus, je dirais, plus classe moyenne ou classe moyenne supérieure ou intellectuelle de droite. Il y en a aussi, même si la gauche a pendant longtemps a eu le monopole. Donc c'était la victoire. Et maintenant, on a évidemment à front renversé chacun des deux, puisqu'ils sont à touche-touche, même s'il y a quand même un avantage assez important, il faut le dire, pour Mme Le Pen, hein, parce que 4-5 points, c'est au-delà de l'épaisseur du trait, comme disent les sondeurs. Mais bon, peu importe, ils sont à la conquête tous les deux. Alors, Zemmour essaye aujourd'hui, et ce sera son meeting de cet après-midi, de conquérir cet électorat populaire sur le pouvoir d'achat. Parce que Zemmour et le pouvoir d'achat, ce n'est pas deux notions qui paraissent évidentes. On ne voit pas très bien ce qu'il va nous dire sur le pouvoir d'achat. Mais on va voir. Et puis Mme Le Pen, elle essaye au contraire de montrer qu'elle n'est pas qu'elle a une sensibilité effectivement populaire, qu'elle peut garder ce peuple de gauche, et je dirais même qu'elle joue une campagne de deuxième tour, c'est-à-dire qu'elle essaye de ramener des gens de gauche vers son électorat naturel.
Monsieur Villeneuve.
Enfin, moi je trouve qu'il y a un jeu de quilles qui a commencé, notamment à droite. Et je ne sais pas qui restera debout et qui tient vraiment encore la corde. On verra. la dureté des propos de Marine Le Pen à l'égard de Zemmour.
Dans le Figaro.
Dans le Figaro d'hier, notamment.
Et vice-versa.
Où elle voit un ramassis de nazis, de catholiques pratiquants. De gens louches quasiment.
Ils sont dans le même sac.
De païens.
Ils sont tous dans le même sac quand même. Les cathotradis et les nazis.
Les païens, les nazis.
Voilà, elle dénonce la présence de nazis. C'est ce qui m'a le plus, si vous voulez, dans l'entourage de Zemmour, c'est-à-dire des ralliés, des anciens de MLP.
C'est ce que dit très bien Robert Ménard, d'ailleurs.
Absolument. Moi, j'y vois le signe qu'elle a intérêt à se placer dans l'esprit des électeurs entre Pécresse et Zemmour, et montrant quelle est la force centrale de droite, puissante, à laquelle il faut se rallier. Et elle repousse aux extrêmes, évidemment, Zemmour, et pour l'instant, elle ménage, en tout cas, elle ne dit rien sur Pécresse. Chacun son tour, parce que c'est ça le jeu de quilles.
C'est-à-dire et Pécresse va en prendre pour son grade après, c'est ça ?
Il faut pas faire un strike, si vous voulez, et abattre ou essayer d'abattre tout le monde, mais chacun son tour. Et on verra qui va rester debout. Il n'est pas sûr que ce soit elle qui reste debout, mais en tout cas, les sondages, il y a un chassé-croisé à l'heure actuelle dans les sondages, les derniers sondages lui donnent une position relativement dominante. Aussi bien sur Pécresse, qui ne décolle pas, et c'est ça l'un des sujets politiques de la semaine, et évidemment Zemmour, qui pour l'instant, dont tout le monde, ou beaucoup, d'experts ou de pseudo-experts voyaient un décrochage. Or, il n'est pas décroché encore.
Michel Cotta, d'un mot ?
Le problème est celui, effectivement, de Valérie Pécresse. Il y a une espèce de compétition, maintenant, dans la sagesse, si j'ose dire, entre Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Toutes les deux refusent la radicalisation de Zemmour. Et on voit donc qu'il y a, là, pour le coup, la position de Marine Le Pen et la position de Valérie Pécresse se rapproche, ce qui doit sûrement être très désagréable à Valérie Pécresse, et en tout cas, elle se rapproche, mais avec une chute pour Valérie Pécresse. Elle doit absolument y remédier, sinon, si elle ne remédie pas dans le mois qui vient, effectivement, alors, pour le coup, Marine Le Pen risque d'avoir gagné son pari, et en plus, avec des couteaux dans le dos qui la rendent finalement sympathique. Les couteaux dans le dos d'Éric Zemmour rendent plutôt Marine Le Pen sympathique.
Mais Valérie Pécresse donne le sentiment de ne pas savoir pourquoi elle est candidate.
Charles Villeneuve.
Et si elle a une vision de la France. Toutes les élections présidentielles depuis 1965, au suffrage universel direct, se sont déroulées sur une vision simple de la France. Chaque président qui a été élu donnait une vision de la France. Et c'est ce qui manque dans le registre de Valérie Pécresse actuellement. Elle fait une campagne thématique.
Une nouvelle pause dans les grandes voies. J'ai tout d'un coup une vision de Marine Le Pen en Big Lebowski avec cette histoire de qui. Mais enfin bon, c'est pas grave, on revient dans les carnets de campagne des grandes voies dans un instant.
Les grandes voies d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Suite des carnets de campagne des grandes voies avec Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou qui voulait ajouter un mot justement sur la stratégie Pécresse.
Oui, parce que je n'ai pas parlé de Pécresse, j'ai parlé que des deux autres. Mais Pécresse, qui devait être normalement au sortir de la primaire républicaine qu'elle a gagnée, avait eu un petit coup de booster. Et normalement, un coup de booster comme ça aurait dû lui permettre de créer une dynamique. Or, force est de constater, plusieurs semaines maintenant, après cette victoire à la primaire et ce booster qu'elle n'a pas créé de dynamique. Et quand dans une campagne électorale qui n'avance pas mais on dit faux plat d'abord dans un premier temps, puis après on dit la vérité, c'est-à-dire on dit elle est encalaminée. On dit ça ne bouge plus. Et c'est pour ça que des gens... Il y a aussi quand on dit protégez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Oui. Je dirais qu'il y a quelqu'un qui incarne bien ça, c'est Rachida Dati. Rachida Dati qui est dans le même parti que Valérie Pécresse et qui veut sans doute venir en aide et qui pour lui venir en aide lui donne des bons conseils et pour lui donner des bons conseils quelque part lui met un peu la tête sous l'eau parce que je voulais être indulgent un peu beaucoup, c'est-à-dire à force de donner des bons conseils à quelqu'un, ça veut dire ma vieille, ta campagne ça marche pas, ça va pas,
c'est du Dati dans le texte,
faut que tu trouves un deuxième souffle, etc. Tu vas te planter, c'est ça que je termine, je fais Rachida Dati, et c'est à la manière policée de gentleman de la politique qui est M. Stefanini, directeur de campagne, quand il dit qu'elle fait un faux plat, c'est un moyen de dire qu'effectivement, elle ne monte pas. Hein, le faux plat, comme c'est quand on fait de la bicyclette.
Après, moi, je serais directeur de campagne, je ne dirais rien du tout. Hein.
Il y a deux raisons. Il y a deux raisons à ça. C'est qu'effectivement, quels que soient ses efforts, et on l'a bien vu l'autre jour chez LCI, elle n'arrive pas à révéler sa personnalité. Elle reste transparente, elle reste d'ailleurs au niveau de notoriété beaucoup moins importante que les autres. Ça, c'est un premier point, c'est presque un point physique.
En même temps, Marine Le Pen, c'est sa troisième présidentielle.
Non, mais attendez, je veux dire, par rapport justement à Marine Le Pen, on voit bien la différence de densité des deux personnages. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils pensent, ça n'a rien à voir. C'est la densité des personnages. Elle est, elle a l'air fragile, elle reste fragile, elle dit des choses très bien, elle est première de la classe, elle a réponse à tout, alors elle recule
un peu. Mais alors quoi, on n'élit jamais un premier de la classe ?
On a bien élu Emmanuel Macron, mais elle reste effectivement sans perspective, sans dessiner des perspectives. Elle reste dans la critique d'Emmanuel Macron, sans dessiner des perspectives. Et c'est vrai.
Mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse ? Qu'elle arrache sa veste ? Qu'elle se coiffe en punk ?
On est d'accord, c'est difficile. Mais je remarque que c'est Marine Le Pen qui, la première, a dit « Écoutez, arrêtons cette guerre permanente. Voilà, moi, je suis modérée. » Elle aurait peut-être pu le faire avant, ça. En disant, Valérie Pécresse, en disant « Mais attendez, tout le monde se dispute. Moi, je ne suis pas hystérique. Je ne suis pas une candidate hystérique. » Et j'ajoute, mais qu'il y a un problème particulier aux femmes là-dedans. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Les femmes ne peuvent pas exactement se présenter, avoir le charisme. C'est pas le charisme.
On vient de parler de Marine Le Pen.
Mais c'est autre chose. Vous savez, comme disait Catherine Ney, Marine Le Pen, c'est le fils que Jean-Marie Le Pen n'a jamais eu. C'est-à-dire qu'elle a quand même un maintien très qui n'est pas du tout. Elle joue pas dans le rôle des femmes, si j'ose dire. Mais regardez, c'est difficile.
Elle a un maintien masculin.
Fatcher était une femme comme ça.
On a le choix en France. Regardez, le choix en France, on a soit le messianisme de Ségolène Royal, ça nous a fait tous rigoler, soit le langage de Chartier et l'imprécision d'Edith Cresson, soit les aboiements de Martine Aubry, c'est très difficile pour une femme et pour une femme de trouver son registre. Je serais plutôt plus indulgent. Je me dis, c'est vrai que pour le moment, elle stagne. Elle peut trouver un moyen de rebondir. Elle peut trouver un moyen de rebondir, surtout si les deux extrêmes droites se bagarrent et se bagarrent solidement.
De toute façon, on est dans, pour prendre une comparaison, je dirais, de Formule 1. Il y a un président de la République qui n'est toujours pas descendu dans l'arène, mais qui en même temps, si vous voulez, ressemble à une Ferrari. Et Valérie Pécresse, dans l'automobile, a une Mercedes diesel.
Oui, j'en ai eu une, ça marchait pas mal.
Oui, ça marche pas mal.
Mais c'est pas sûr que ça gagne la course.
Voilà,
hein.
Mais c'est exactement ça. Non, mais pour être, si vous voulez, encore plus direct, Pécresse, elle est prise en étau entre le progressisme macroniste et le nationalisme de Zemmour et de Le Pen.
Et comment on fait ?
Et elle recherche, il faut qu'elle trouve un ballon d'oxygène. Et pour trouver ce ballon d'oxygène, il faut qu'elle arrête sa campagne thématique. Un jour, le nucléaire, un autre jour, le pouvoir d'achat, un autre jour, on s'y perd. On s'y perd, il faut être beaucoup plus ramassé que ça.
Alors, justement,
un mot, dites-moi. Elle sera mieux si elle arrive au deuxième tour. Ce qu'à Dieu ne plaît, j'en sais rien. Mais si elle arrive au deuxième tour, elle sera plus libre de ses mouvements face à ce moment-là à Macron, même si elle lui ressemble par bien des côtés. Elle sera plus libre tant qu'elle ne s'est pas débarrassée, effectivement, de son aile marchante, extrême par rapport à elle.
Elle a perdu quand même un argument, elle risque de perdre un argument assez important dans les sondages. On disait, vous vous rappelez au début, s'il y a un duel Pécresse-Macron, Pécresse est mieux placée que Marine Le Pen. Or, cet argument-là, elle l'a perdu dans certains sondages. Je ne dis pas dans tous, elle l'a perdu pour l'instant. Et c'est là où il faut qu'elle fasse une campagne de deuxième tour.
Mais c'est le débat qui la servira. Et y aura-t-il un débat avant le premier tour?
Non.
Une nouvelle pause, les grandes voix reviennent, on parlera de la gauche, du président sortant toujours pas candidat et bien sûr du Sahel. Cette question, est-ce que la France doit quitter le Sahel? À tout de suite.
Les grandes grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
Avec Gérard Kerrérou, Charles Villeneuve et Michel Cotta, suite de nos carnets de campagne, on part à gauche. Et évidemment, ce qu'on retiendra de cette semaine, ce sont les balbutiements de Christiane Taubira à la Fondation Abbé Pierre. Ce genre d'exercice raté, c'est létal, non, dans une campagne présidentielle,
Surtout,
Michel
Cotta. Se dit tout ça pour ça. Elle bouleverse la gauche. Elle invente quand même un processus de désignation par des citoyens. Elle invente.
400 000 personnes quand même qui ont voté.
Oui, 400 000 personnes qui ont voté. Elle tend la main à des gens qui manifestement n'en veulent pas. Elle inscrit sur les listes électorales des gens qui ne veulent pas y être. Donc au fond, elle dit je ne serai pas une candidate parmi les autres. Eh ben, elle finit par être une candidate parmi les autres. Parce qu'il n'y a aucune raison, mais aucune raison au monde, que Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, ou même Madame Hidalgo, Anne Hidalgo, acceptent ce... Bon. Donc, elle se trouve, une candidate en plus, et une candidate qui apparaît bizarrement comme une candidate poétique, mais absolument pas préparée, à rien, parce que le coup du RSA, vous voyez, elle sait quand même pas ce que c'est. Donc, faire une espèce de
dernier exemple en date, c'était quand même Myriam El Khomri face à Jean-Jacques Bourdin sur... c'était quoi? C'était les renouvellements de CDD.
Je ne sais pas, mais en tout cas, elle n'est pas candidate, elle n'a pas bouleversé la gauche. En tout cas, si ça a fait chuter, effectivement, et Anne Hidalgo et Yannick Jadot, qui fait une mauvaise campagne, ça n'a pas fait chuter Éric Roussel, qui est effectivement très bas, qui est le candidat du Parti communiste. Fabien Roussel, qui est absolument le candidat que personne n'attendait et qui nous fait marrer tous. Quoi. Ouais. C'est le seul audible. Alors, il est à 3.
3%, oui.
Oui, oui. Enfin, il est parti à 1. Oui. Alors, au fond, la montée... Donc, elle révèle ça. Et deux, elle révèle que Mélenchon est un roc, que Mélenchon ne bougera pas, mais qu'il n'arrive pas à déclencher un vote utile derrière lui, un vote utile à gauche.
Gérard Kerrérou.
Écoutez, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. La gauche, non, c'est clair, ce n'est pas l'élection où la gauche va pouvoir figurer, je dirais, brillamment, voire honorablement.
Quoi,
ouais. Non, faites le total, on retombe encore, je l'ai fait tout à l'heure, on retombe encore sur 26. Mm. Bon, 26, la gauche qui a gagné, qui a
En comptant Mélenchon, qui ne veut rien entendre.
En comptant large, donc. Ouais. Donc la gauche ne le fera pas ce coup-ci. Ouais. Moi, je me suis trompé sur Taubira. Je pensais que comme elle est dans l'état de désespérance où était la gauche, j'avais même dit ici, j'avais dit peut-être que le peuple de gauche va se réveiller. Ben non, puis il ne s'est pas réveillé et la candidate n'a pas... Peut-être que
si elle
eût été à la hauteur de ce qu'elle nous avait laissé entrevoir, peut-être que... Bon, donc ça n'a pas marché. Et à partir de là, effectivement, ça ne marchera pas. Aucun des candidats de gauche, dernier sondage que j'ai vu hier, dans le dernier sondage, aucun des candidats ne passe la barre de 10 points. Même Mélenchon est à 9. Donc, il y a quelque chose. Je pense que la gauche va se refaire pour la prochaine fois. Il faut que la gauche, pendant les 5 ans qui viennent, travaille et elle s'affrontera à celui qui aura gagné ou à celle qui aura gagné. Mais pour l'instant, ce n'est pas l'heure de la gauche et je ne vois pas ce qui peut la réveiller. Alors, Hollande, sûrement pas.
Alors, en attendant, on a Emmanuel Macron, on l'a dit, qui n'est toujours pas candidat, mais il fait savoir qu'il a obtenu ses 500 parrainages. Donc,
Même plus que ses 500.
Non, en tout cas, il a passer la barre des 500. Mmh. Que dire sur Emmanuel Macron qui intervient sur l'international? On le sent un peu silencieux sur les affaires internes, alors que bon, voilà, ce secret de Polichinelle qui devrait normalement, on devrait crever l'abcès aux alentours du 15 février. Oui. Michel Cotta.
Non, mais c'est toujours le cas du président qui se représente. Hein. On le sait, les challengers ont intérêt à se présenter avant lui, mais lui a intérêt effectivement à faire durer, comme François Mitterrand l'a fait, ramener le plus près sa déclaration le plus près possible du vote. Alors, je trouve qu'effectivement, pour le moment, il est dans la politique internationale, mais il faut bien voir que c'est à double tranchant. Il a effectivement maintenu sa volonté d'être président de l'Union européenne pour 6 mois au moment de sa campagne électorale, mais par exemple... Beaucoup dépend de ce qu'il va obtenir, par exemple, avec son entretien avec Poutine lundi, de ce qu'il va obtenir de son entretien enfin.
Non, je vous laisse finir.
Oui, beaucoup. C'est-à-dire que c'est à double tranchant. Je veux dire, c'est à double tranchant de diriger une politique extérieure
oui.
difficile dans des situations vraiment, vraiment compliquées au moment où on est soi-même, où on s'apprête à être candidat à la République.
Charles Villeneuve.
Bon, d'abord, les présidents de la République ont toujours joué sur leur positionnement institutionnel et ont toujours retardé leur entrée dans la campagne. C'est classique. Hein. De Gaulle avant tout le monde, Michel faisait allusion à Mitterrand, bien avant Mitterrand, De Gaulle, c'est lui d'ailleurs qui a retardé le plus possible en 65 l'entrée en jeu, 31 jours, 33 jours Mitterrand. Bon, et même Sarkozy, 60 jours. Et je ne vais pas énumérer tous les déclencheurs de tous les présidents de la République. Mais moi, ce qui me paraît beaucoup plus intéressant, et peut-être même qui peut altérer son score du premier tour au président de la République, c'est le fait qu'il veuille éviter, d'ailleurs tous ces chevaux légers de Attal en passant par Clément Beaune, etc., le disent, le président de la République, finalement, c'est secondaire. On sait très bien qu'il sera au deuxième tour et que même au deuxième tour, de toute façon, le sort, l'issue du deuxième tour est réglée. Quasiment.
C'est quoi, c'est le lièvre et la tortue
Oui, non, c'est pas ça, mais je veux dire que ça peut altérer son score même du premier tour. Vous savez, on a affaire à un pays aux passions citoyennes. Et donc, ça pourra être pris, cette attitude, comme arrogante, si vous voulez.
Une fois de plus.
Indéniablement. et donc ça se joue beaucoup plus. Ce sera beaucoup plus serré qu'on ne l'imagine, je pense. Mais enfin, ça, c'est un pari que je prends, et évidemment. Et cette attitude-là, glaciale, si vous voulez, de grande maîtrise, de sûreté de soi, peut très bien ne pas apparaître comme positive aux yeux, justement, de ce que j'appelle les passions citoyennes en France. Et elles existent, les passions citoyennes.
Gérard Carreau.
Alors d'abord, Macron se présentera le 20 février, je vous l'annonce. Le 20 février, parce que c'est mon anniversaire.
Je me suis dit, il a sorti sa boule de cristal.
Je pense que le 20 février, il sera candidat.
Bon.
On verra. Hein.
Donc, ça serait votre plus beau cadeau, Gérard.
Quel cadeau, oui, quel cadeau, avec un point d'exclamation. Alors, quelle campagne il fera? C'est assez simple. Il sera le président qui vous a protégé, mes chers concitoyens, qui vous protège, mes chers concitoyens, et qui continuera de vous protéger pendant les 5 ans qui viennent, et il donnera ses points forts, la Covid ou le Covid, il donne le management général.
Quoi qu'il en coûte.
Il aura une forte approbation. L'économie, en disant le quoi qu'il en coûte, a sauvé des pans entiers de l'économie française.
Il aura
une reconnaissance. La politique du chéquier, qui est la directe reconnaissance aussi de la politique du quoi qu'il en coûte. Et le pouvoir d'achat, il va bien trouver, d'ici le 20 février, quelque chose à nous dire sur le pouvoir d'achat. Et il utilisera, ça c'est la campagne, qui touche les gens dans leur portefeuille et dans leur santé. Et puis, il y aura le petit plus flamboyant. Le petit flamboyant, ça sera le levier international où il va essayer, sur l'Europe, avec Schengen ou autre chose, de nous faire accroire qu'il a trouvé une recette pour éviter l'Europe passoire, pour éviter... Mais par contre, il ne nous parlera pas du régalien, ou très peu, le régalien étant entendu que l'immigration, la sécurité, l'autorité, tout va bien.
Michel Cotta.
Non, c'est vraiment un tel résumé, à ta convenance de Macron, qu'effectivement...
Non, vu par moi,
il dira aussi... Oui, vu par toi. Donc, il ajoutera aussi la croissance... Et le chômage en baisse quand même, il ajoutera aussi ça, il essaiera.
Oui, j'ai oublié dans le positif.
Voilà, tu as oublié, non mais dans le positif. Évidemment, tu as tendance à oublier dans le positif,
Non, j'ai dit déjà
comprends.
Beaucoup de choses dans le positif.
Je comprends. Et il reste que, Macron arrive à faire quelque chose avec Poutine, arrive à donner un résultat avec Poutine. Les Français, certes, tu as raison de le dire, ils sont citoyens intérieurs français. Il reste qu'ils sont fiers, rappelez-vous, la Géorgie et Sarkozy, comme dit Catherine, ils ont été fiers que le président français...
Attention, il faut ramener des choses.
Oui, il faut ramener des choses.
Et je ne vois pas très bien ce que le président de la République française a dans ses bagages pour impressionner Poutine.
On verra. Pour impressionner Poutine, apparemment, la discussion ne se passe pas si mal. Donc, impressionner Poutine, je ne sais pas qui peut impressionner Poutine d'ailleurs et comment il le fait. S'il arrive à quelque chose... Les Français en seront quand même contents.
Oui.
S'il arrive à rien,
ce sera le petit télégraphe.
Un dernier mot, Charles, et après il faut qu'on passe au Sahel.
Non, mais moi je crois que l'art de la politique n'est pas celui des armes. Et rien ne se déroule comme prévu. Rien. Pratiquement jamais.
Et ben voilà. Dans un instant, la France doit-elle quitter le Sahel ?